On se retrouve dans Punchline avec François Pupponi, député apparenté Modem du Val-d'Oise, Maxime Liédo, journaliste et essayiste, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va s'intéresser au voyage de Marine Le Pen. Elle était aujourd'hui en Hongrie auprès de Viktor Orban, qu'il a reçu avec faste, tapis rouge, et vraiment une réception digne d'un chef d'État. On va écouter Marine Le Pen féliciter Viktor Orban de lutter contre la submersion migratoire de l'Europe.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
François Pupponi, pourquoi vont-ils tous, Éric Zemmour y était il y a quelques semaines, voir Orban, qui est le leader souverainiste de l'Europe?
Il y a deux raisons. La première, c'est effectivement d'aller voir un souverainiste qui dirige un pays dans l'Europe, donc qu'on peut, en étant dans l'Europe, s'opposer quand même à la politique de l'Union européenne, en étant à l'intérieur. Et puis deuxièmement, je pense que pour Marine Le Pen, elle a un petit problème de financement quand même.
Donc, mais elle va chercher des financements en Hongrie?
Elle va trouver des banques en Hongrie qui vont être capables de...
Ah, mais elle n'a plus le droit, on ne peut plus.
Ils peuvent trouver des financements, mais elle a un petit problème de financement.
D'accord. Voilà.
Donc, Maxime, d'après les informations que j'ai eues aussi, c'est qu'elle a aussi quelques intérêts de ce côté-là, parce qu'il faut qu'elle finance sa campagne. Rappelez-vous les difficultés qu'elle avait eues la première fois. Mais là, voilà. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là.
Maxime Liédo, Orban, c'est pas anecdotique non plus, c'est pas banal.
Enfin, c'est tout sauf banal, mais ça s'inscrit dans une actualité européenne qu'on voit depuis des semaines. Il y a la Pologne d'un côté, la Hongrie de l'autre. On peut voir ça sur le prisme d'avoir une stature internationale pour Marine Le Pen. Mais à mon sens, il y a deux choses. Il y a en effet Hongrie, Pologne, les différentes, on va dire, infractions qui sont faites à la démocratie récemment. La Pologne, on sait que c'est l'indépendance de la justice, les problèmes des médias, les droits des LGBT, un peu pareil en Hongrie également. Mais il y a l'autre aspect qui est l'aspect, on va dire, européen, à savoir que est-ce qu'on peut être dans l'Europe en critiquant la primauté du droit européen sur les lois fondamentales, puisque c'est en effet le bras de fer qui est en train de se faire entre d'un côté la Pologne, d'un côté l'Union européenne, et je trouve ça très intéressant.
Et ça sera un fil rouge de la présidentielle, à mon avis.
Si c'est le cas, je l'espère, parce que en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on voit. Je pense à une interview de Clément Beaune dans Libération lundi dernier qui expliquait... très pointu. À la page 2, exactement, en bas.
Très pointu,
non, mais
là.
Qui expliquait que poser ces questions, c'était mettre le doigt dans un engrenage qui allait faire monter les extrêmes. Donc encore faut-il que ce débat soit possible en France, je l'espère en tout cas.
Louis de Ragnel.
Ce débat en fait a déjà commencé en France, puisque à la suite de la décision polonaise, ce débat notamment s'est invité dans la campagne des Républicains. Ouais. Et on voit bien Michel Barnier, qui est quand même pas le premier souverainiste français parmi tous les autres candidats, même s'il s'y est progressivement converti, tous les autres candidats, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, parlent même de la primauté, voilà, du droit français sur le droit européen.
A-t-il réellement été posé? J'ai l'impression qu'il s'est hystérisé, parce qu'en effet, tout le monde a mis sa petite, mais je suis pas sûr que ce soit réellement posé. C'est-à-dire que j'ai pas entendu réellement un débat de fond avec des propositions. J'ai pas entendu de gens qui ont dit, écoutez, ça fait quelques temps qu'on a délégué l'agriculture, l'industrie à l'Union européenne, et par exemple, personne à droite, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai lu, n'a rappelé qu'accessoirement, en 2005, on avait voté contre la Constitution européenne, et qu'accessoirement, en 2007, hop, passé comme une lettre à la poste au Parlement.
En fait, donc,
ça paraît des sujets.
Alors, il y a une bascule, en fait, qui s'est quand même produite. C'est-à-dire que là, vous avez raison, c'est qu'avant, on abordait cette question sur des sujets très précis, la politique agricole commune, on parlait de la Cour de justice de l'Union européenne, récemment les questions migratoires, et là, en fait, vous avez le débat carrément qui est-ce que notre droit français, tout en bloc, doit passer au-dessus du droit européen, ou alors dans l'autre sens, est-ce qu'il doit s'affranchir du droit européen?
Alors c'est pas tout en bloc, c'est certaines mesures, certaines dispositions.
C'est la justice, globalement, et après ça fait jurisprudence, donc de fait, c'est quand même, l'idée générale c'est celle-là. Mais pour revenir au déplacement de Marine Le Pen, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, donc elle a vu le Premier ministre polonais la semaine dernière.
C'est ça, vendredi dernier.
Et absolument, et d'ailleurs Emmanuel Macron du coup voit le président polonais demain, ça va être un sujet très important, et donc...
Il réfléchit à aller voir
voilà. Et donc Emmanuel Macron, il regarde quand même de très près ce qui est en train de se passer avec Viktor Orban et les Polonais, et donc Marine Le Pen, parce que il faut pas oublier qu'il va présider l'Union européenne, donc il marche sur des œufs. Il marche sur des œufs parce qu'il se dit, si je les exclus trop vite, on va me traiter de diviseur. C'est pas moi qui vais fracturer l'Union européenne. Et si je suis trop bienveillant avec eux, on va me dire, tu laisses se fracturer l'Europe de l'intérieur, justement avec le rétablissement de ses souverainetés. Donc Marine Le Pen, c'est là où c'est assez malin pour elle. Le timing est assez bon. Certes, elle arrive un mois après Éric Zemmour. Mais donc, elle arrive, elle se pose, vous l'avez dit, elle a été reçue avec un rang de chef d'État.
Quasiment.
Quasiment,
si, deux drapeaux français derrière elle, deux drapeaux
et pas de drapeau européen. Voilà. Avec son bureau, c'était assez intéressant. Et donc voilà, donc pour tout l'enjeu pour elle, c'est de se démarquer d'Éric Zemmour, ça on l'a dit. Donc elle a été reçue en tant que politique, là où Éric Zemmour, c'était vraiment plus les codes d'un intellectuel. Il allait à un sommet sur la démographie. Elle a eu le droit à une conférence de presse commune. C'est pas du tout le même statut. Et puis voilà, elle est en train aussi d'essayer de s'ancrer, de récupérer un électorat français qui peut être sensible à ce qui est les racines chrétiennes de l'Europe, toutes les questions migratoires, des sujets qu'elle avait un tout petit peu écartés.
Et que Zemmour lui a piqué.
Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Figurez-vous que c'est une petite anecdote. Mais hier, elle est allée à la basilique Saint-Étienne de Budapest et elle a allumé un cierge pour la France. Ouais, je trouvais que le symbole était à la fois amusant et assez fort.
François Pupponi.
Non, c'est vrai qu'elle a du retard. Hein. Elle voit bien. Là, le dernier sondage qui est sorti, elle est d'un point derrière Éric Zemmour. Il n'a pas lancé sa candidature. Et elle sait très bien que le risque pour elle, c'est que le jour où elle lance la candidature, un certain nombre de cadres des Rassemblements nationaux rejoignent Éric Zemmour et que les courbes s'inversent complètement. Bon, là, on est à touche-touche.
Oui, donc, ça stagne.
Mais elle est obligée d'aller chercher une caution aussi internationale, de montrer qu'elle est capable aussi d'avoir cette posture internationale. C'est ce qu'elle fait. Mais elle le fait toujours avec un temps de retard. Bon. Donc elle est derrière Éric Zemmour, elle court derrière. Là, Orban lui a déroulé le tapis rouge hein, pour bien montrer que c'était quand même sa candidate. Mais il n'empêche qu'elle court après.
D'accord.
Je trouve aussi que ce qui est très intéressant, c'est le positionnement d'Emmanuel Macron au milieu des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il parlait, c'était fin de la semaine dernière, je crois, jeudi soir ou vendredi soir, il parlait depuis la Commission européenne, il disait pour justifier le chèque inflation, bon, par exemple, la TVA, vous voyez, on ne peut pas tellement la baisser parce que l'Europe nous l'interdit. Bon, ben pas de chance parce que Ursula von der Leyen avait conseillé l'inverse quelques jours auparavant. Et puis, on le voit là aussi, il dit, mais vous ne comprenez pas, tout ce qu'on reproche à l'Union européenne, on l'a voulu et finalement, la faute c'est à l'Europe, mais l'Europe c'est nous. Mais ce n'est pas totalement vrai parce que quand on se plonge dans les textes, même si ça fait l'objet de débats de spécialistes de droit, la primauté du droit européen sur les règles fondamentales, ce n'est pas si clair que ça parce qu'on peut dire qu'il y a dans notre Constitution, dans la jurisprudence, la primauté du droit international. Mais je veux dire, ce n'est pas dans le fondement de l'Europe, la primauté. On a eu une première décision en 64 qui disait que certaines lois européennes pouvaient être supérieures à quelques lois. En 70, un autre truc, mais là où ça, la seule fois où ça a été clairement exprimé, c'est en 2005, et la France a voté contre. Donc ça aussi, ça, j'espère...
Mais de fait, le droit européen s'impose à nous.
Oui.
Au niveau fiscalité, au niveau des aides qu'on peut apporter à l'entreprise, on ne peut pas. Ce qui est un problème, mais sauf qu'on a accepté de constituer un espace européen où il y a...
Parce que dit Macron, l'Europe, c'est nous, qui l'avons créée.
Oui, mais la nationalité, elle n'est pas si évidente que ce soit.
Elle n'est pas si évidente, elle l'est de plus en plus. Donc on l'a accepté. Alors maintenant, on peut dire l'Europe ne devrait pas être ça.
Mais c'est beaucoup plus nuancé, à mon sens, et Louis va me corriger sans attendre, mais c'est beaucoup plus nuancé que de dire, voyez, la primauté, on l'a toujours voulu, l'Europe, c'est comme ça, et le peuple a voté pour
ça. C'est comme ça qu'elle s'est construite, en tout cas.
Oui, c'est comme ça.
Peut-être pour vous réconcilier sur cette question-là. Moi, il y a quelque chose que j'ai observé il y a quelques années qui m'a fortement frappé. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des transpositions de directives européennes donc qui sont votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, moi j'ai été frappé parce que les parlementaires français votent de manière extrêmement zélée toutes les directives de l'Union européenne. Et parfois même en rajoutant comme s'ils voulaient montrer à l'Union européenne à Bruxelles qu'ils étaient des très bons élèves.
Et souvent ça se rajoute par des normes qui nous...
Et du coup, en fait, c'est assez... C'est quelque chose qui m'a un peu étonné, qui m'amusait à l'époque juste en regardant ce qui se passait. C'est que les mêmes qui, sur les plateaux de télévision, vous expliquaient que c'était horrible, qu'ils étaient soumis à l'Europe et tout ça, étaient les mêmes qui, peut-être un peu pour se vanter d'avoir des compétences techniques, allaient beaucoup plus loin que ce que demandait l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et juste pour terminer, moi, ce que je trouve très intéressant dans le débat qui est en train de s'installer, pas du tout entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, ça dépasse largement le cadre d'Éric Zemmour et Emmanuel Macron. C'est le débat qui est en train de se produire en Europe. C'est est-ce qu'on va vers cette volonté d'aller vers l'Europe politique qui est une utopie, ou est-ce qu'on revient en fait à l'Europe du charbon et de l'acier? Alors ce sera peut-être pas le charbon et l'acier, mais ce sera une entente économique.
Mutualisation des nations.
Moi je trouve que c'est un débat qui est pas. C'est un débat
passionnant. François Pupponi, un tout dernier mot.
C'est vrai que c'est un vrai débat qui va être posé et qui va être posé par Éric Zemmour et par Marine Le Pen. Et là il faudra que les autres répondent.
Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce Punchline sur Europe 1. On se retrouve demain à 18h pour Punchline 18h-20h. Et tout de suite, sur Europe 1, c'est Mouloud Achour pour son émission. Maxime Yedo.
Je n'ai pas votre talent pour prononcer
Verveine Underground. Bonne soirée à vous sur notre antenne.